Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama économique sur votre radio. Au sommaire, la Banque centrale du Congo lutte pour que la monnaie nationale reprenne le monopole dans certains coins du pays, dont la province orientale, précisément dans les territoires qui utilisent les monnaies de l'Ouganda et du Soudan du Sud voisin. L'actualité a été aussi dominée par le bras de fer entre Kibali Gold Mine et la Sokimo sur la crise que traverse la Sokimo. Ces deux entreprises ne s'accordent pas sur les royalties ou le droit que la Sokimo réclame au groupe AngloGold Ashanti dont fait partie Kibali. Une nouvelle usine de cimenterie est en train de voir le jour dans le Bas-Congo. Cette initiative est de Jean Bamanissa, administrateur de cette entreprise. Donc, elle vaut 280 millions de dollars américains et vise une production de 3000 tonnes de ciment par jour. Panorama économique est présenté par Paul Matendo et François Kadima. Bonjour Paul.
Bonjour François.
Un invité pour analyser et commenter l'actualité économique de la semaine ce samedi. Il s'appelle Alexandre Choué Bomoukime. Il est enseignant en économie à l'Université protestante du Congo, UPC. Bonjour Monsieur Alexandre.
Bonjour.
Bienvenue dans Panorama économique.
Merci.
Panorama économique, le dossier.
Commençons le premier dossier par la Banque centrale du Congo qui mène depuis un certain temps une politique contre l'utilisation de monnaies étrangères dans certains territoires de la province orientale faisant frontière avec l'Ouganda et les Soudans du Sud et autres.
Oui François, seule solution c'est stabiliser le franc congolais pour convaincre les Congolais à avoir confiance en leur monnaie. C'est ce qu'a souligné mardi à Kisangani le gouverneur de la Banque centrale du Congo en fin mission de 24 heures sur place. À ce jour, a-t-il précisé, le franc congolais connaît un taux d'inflation de 1,7%. C'est l'indicateur crédible à ce stade pour pérenniser la stabilisation de la monnaie nationale, a souligné Deogracias Mutombo dans cet extrait choisi par Aliana Alipanangama.
Les objectifs que nous poursuivons sur le plan macroéconomique, nous tenons à pérenniser la stabilité. Notre objectif primordial, stabilité monétaire, et nous sommes en train de le faire. Nous avons réalisé un taux d'inflation de 1,07 et même maintenant à rythme annuel, nous sommes toujours autour de 1%. C'est ce qu'il faut pour donner de la confiance du public dans notre monnaie. Dans la province ici, dans certains territoires qui sont voisins à l'Ouganda et autres, on préfère utiliser les monnaies des voisins alors que la nôtre n'est pas aimée, tout simplement parce que le public n'est pas encore convaincu de la stabilité. Donc, il faut pérenniser la stabilité pour que les gens soient convaincus. Aujourd'hui, le taux de 1%, c'est de loin meilleur que le taux que fait l'Ouganda, que fait le Kenya et que tous ces pays voisins dont nous utilisons leur monnaie. Mais si nous maintenons ça dans la durée, 5 ans, 10 ans après, je crois que ça sera autre chose. Et ça, c'est notre bataille de cheval.
À l'étape de Mbujimayi, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a annoncé plusieurs réformes pour justement pérenniser la croissance du cadre macroéconomique en vue de stabiliser la monnaie nationale. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un guichet de refinancement pour soutenir les activités de crédit et diversifier l'économie congolaise. Le gouverneur de la BCC l'a dit après avoir visité les installations de cette institution financière. Deogracias Mutombo s'entretient ici avec Esther Ndalafina.
Gracias, quel est le but de votre tournée dans les provinces de la RDC?
Juste après ma prise de fonction au mois de mai 2013, j'avais demandé les états des lieux de tous les organes de la Banque centrale et leur examen avait conduit à préconiser beaucoup de recommandations parmi lesquelles la visite de province. C'est dans ce cadre-là que je suis ici à Mbujimayi. Nous sommes une institution qui a des objectifs macroéconomiques, notamment la stabilité de prix, la stabilité du système financier. Donc dans ce cadre-là également, nous avons rencontré la profession bancaire pour faire un état des lieux de la stabilité du développement du système financier en province ici, que ce soit au niveau des banques et au niveau de la microfinance, faire aussi un état des lieux sur la bancarisation et également voir les conditions d'octroi de crédit ici en province, parce que vous savez aujourd'hui la diversification de l'économie est devenue la solution pour rendre plus forte la croissance de notre économie. Nous avons une croissance qui est tirée par des secteurs extractifs, mais il faut mettre à contribution les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, notamment l'agriculture, et en appuyant, en soutenant la petite et moyenne entreprise, et donc l'entrepreneuriat local et provincial.
Après cette visite, comment la Banque centrale compte-t-elle améliorer l'économie nationale?
Nous sommes une institution. L'un des objectifs dans sa mission est de stabiliser le cadre macroéconomique par la stabilité des prix. Mais n'oubliez pas, la politique monétaire ne poursuit pas que la stabilité des prix, la politique monétaire poursuit également la croissance, poursuit également l'emploi et l'équilibre extérieur. Donc nous travaillons dans ce sens-là. En ce qui concerne la stabilité macroéconomique, effectivement, c'est l'objectif prioritaire. Donc nous avons renforcé notre dispositif de politique monétaire de manière à le rendre beaucoup plus solide. Donc vous verrez par exemple au cours du mois de janvier-février, la Banque centrale avant vendait des devises parce que l'économie subissait des pressions inflationnistes. Mais aujourd'hui, nous nous anticipons et vous avez vu que le mois de janvier et le mois de février sont très stables. Au lieu de vendre des devises, nous avons par contre acheté des devises. Donc on a révolutionné notre politique monétaire parce qu'aujourd'hui, la stabilité macroéconomique est meilleure chez nous. Donc il suffit de pérenniser ça. Pendant 10 ans, en tout cas, la confiance sera rétablie dans notre monnaie. Nous avons prévu déjà au mois d'avril, nous allons mettre sur le marché les billets trésorerie de 91 jours parce que c'est un instrument de régulation où le public vient investir en francs congolais. Mais nous avons remarqué que le public ne souhaite plus investir dans la maturité de 7 jours, préfère investir dans la maturité de 28 jours. Donc préfère de longue maturité. Donc nous avons beaucoup de réformes pour stabiliser et renforcer le cadre macroéconomique. Hein, ces réformes de dollarisation, et c'est une grande réforme qui est en cours. Nous comptons mettre en place un guichet de refinancement pour soutenir les activités de crédit. On tient au crédit à l'économie pour diversifier notre économie. C'est la solution d'ailleurs pour rendre cette croissance beaucoup plus forte et durable. Nous allons publier tout de suite, là je crois, avant le second semestre, la nouvelle réglementation révisée qui s'adapte aux conditions de marché actuelles.
Monsieur le gouverneur, je vous remercie.
Merci madame.
Voilà, je rappelle que nous sommes dans Panorama économique et nous avons comme invité Alexandre Nchoué, c'est un économiste. Il enseigne à l'université protestante du Congo UPC. Monsieur Alexandre, vous avez suivi le gouverneur de la Banque centrale du Congo qui a fait une tournée, qui l'a conduit à l'Équateur, en province orientale. Il a fini par le Kassai oriental. Dans ce qu'il a dit tout à l'heure, nous avons retenu la croissance économique et il tient à la pérennisation de cette croissance économique. Il annonce plusieurs réformes dans la dédollarisation de l'économie. Donc, selon lui, il faut donner la valeur à la monnaie congolaise.
Effectivement, la politique monétaire consiste à manipuler la quantité des instruments de paiement disponibles au sein de l'économie afin de maintenir d'une part la stabilité des prix intérieurs, la stabilité du taux de change, mais aussi de créer un ensemble de conditions favorables à l'expansion économique, donc à la croissance. Et pour ce faire, il faudrait que la Banque centrale ait les leviers de sa politique, c'est-à-dire qu'elle ait les instruments par lesquels elle peut agir. Mais lorsque l'économie est fortement dollarisée, c'est-à-dire lorsque l'économie utilise fortement des devises étrangères, la capacité de la Banque centrale à réguler la quantité d'instruments de paiement dans l'économie devient difficile. Et ce phénomène de dollarisation a vu le jour par le fait qu'au fil des années, les Congolais ont perdu confiance en la monnaie nationale à la suite de plusieurs épisodes d'instabilité macroéconomique. Donc si aujourd'hui nous voulons renverser la tendance, il faudrait procéder à la dédollarisation. Et ça demande plusieurs efforts. Et ces efforts sont à conjuguer à divers niveaux. Au niveau des finances publiques, mais aussi au niveau de la gestion monétaire. Il faudrait de la discipline au niveau des finances publiques pour resserrer les sites de l'État et amener celui-ci à ne pas recourir aux avances de la Banque centrale, car ce sont ces avances qui autrefois ont nourri l'inflation, ont fait perdre à la moyenne sa valeur et qui ont conduit donc à une perte continue de la valeur des revenus des Congolais. Donc il faudrait en tout cas renverser la tendance en dédollarisant. Et cela suppose qu'il faut créer de la confiance dans le chef des différents acteurs au sein de l'économie. Dans certains territoires, comme il a dit, les monnaies de certains pays limitrophes sont utilisées. C'est tout simplement parce que on a perdu confiance en la monnaie nationale. Si nous voulons aujourd'hui renverser la tendance, il faut créer cette confiance. Et donc, il faudrait améliorer aussi la gestion, la gestion monétaire au niveau des provinces. Quel est le rôle joué réellement par les différentes succursales de la Banque centrale en province? Comment est-ce que ces succursales interviennent dans la régulation des activités financières dans les provinces? Il faudrait revoir tous ces éléments pour que justement on puisse créer la confiance dans la population. Et j'estime que ce n'est pas une œuvre d'une journée ou d'une semaine, c'est une œuvre de longue haleine, mais ça demande que des efforts soient conjuguer de manière soutenue pour que justement les gens puissent croire à la volonté des autorités de rompre avec les expériences d'autrefois et qu'on puisse justement regarder vers de nouveaux horizons.
Justement, c'est une œuvre de longue haleine. Est-ce que la stabilité macroéconomique à ce stade peut permettre au gouvernement d'entamer la politique de dédollarisation de l'économie?
Si, si. La stabilité est le premier élément qu'il faut présenter, mais il faut justement la pérenniser. Donc, il faudrait garder le même élan de gestion macroéconomique, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir de la discipline au niveau de la gestion des finances publiques, veiller à ce qu'il n'y ait pas des déficits importants ou non justifiés, resserrer le déficit public et surtout éviter d'utiliser les avances de la Banque centrale pour couvrir ce déficit parce qu'en le faisant, on nourrit l'inflation et l'inflation vient laminer le pouvoir d'achat des revenus et directement ça affecte les acteurs de l'économie.
Mais dans ce que le gouverneur a dit, nous avons également noté dans les éléments, les réformes qui peuvent être apportées pour pérenniser réellement la croissance du cadre macroéconomique, la mise en place d'un guichet de refinancement pour soutenir les activités de crédit et aussi parle de la diversification de l'économie congolaise pour réellement en fait, la pérennisation de la croissance économique. Quelle lecture faites-vous de toutes ces propositions de la Banque centrale?
L'analyse de la situation économique actuelle montre que la croissance économique en RDC se fonde essentiellement sur quelques secteurs. Et le premier secteur, c'est le secteur des industries extractives, suivi de l'agriculture, de la construction et du commerce. Alors que le pays a un très grand potentiel de production et on peut aller vers le tourisme pour créer des richesses et vers d'autres segments. Donc il y a lieu de penser à la diversification de l'économie. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut d'abord être capable de mobiliser une épargne conséquente et ensuite de l'orienter vers l'investissement. Et c'est justement à ce niveau-là qu'intervient le système financier, car son rôle est de collecter l'épargne de ceux qui dégagent une capacité de financement d'un côté et de transmettre cette épargne collectée auprès de ceux qui ressentent les besoins. Mais quand on analyse de près la structure des crédits accordés en RDC, on se rend compte que plus de 60% des crédits sont des crédits de court terme. Et ces crédits sont généralement des crédits qui ne financent pas le développement de l'économie. Donc, il faudrait avoir une bonne politique en matière de crédit à l'économie pour que le crédit soit réellement utilisé pour financer l'économie. Mais si les banques n'accordent pas de crédits à moyen et long terme ou pas suffisamment, il faut se demander quels sont les éléments de contrainte qui font qu'il en soit ainsi. Donc, si on répond à cette préoccupation, là, on pourra engager autre chose.
Nous allons prendre le deuxième dossier de la semaine. C'est ce ton qui montre entre la compagnie Kibali Gold Mine et la société minière de Kilomoto Sokimo. Tout est parti de la révélation de l'ADG de Kibali d'un montant de 155 millions de dollars que son entreprise a déjà versé à la Sokimo. Le directeur général de Kibali Gold Mine avait indiqué sur Radio Okapi que sa société n'a aucune responsabilité dans la situation de crise que traverse l'entreprise Kilomoto dans la province orientale. Louis Watum a estimé que cette crise s'explique par des facteurs internes et externes à l'entreprise. Écoutez le DG de Kibali Gold Mine au micro de Paul Matendo.
La situation que Sokimo connaît aujourd'hui est une combinaison de plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est certainement des problèmes internes à Sokimo, parce qu'on s'est posé la question de savoir comment se fait-il qu'un partenariat qui à ce jour a bénéficié de plus de 150 millions de dollars peut se trouver dans cette situation, sans argent, sans rien. Donc il y a des problèmes internes à Sokimo, et nous avons invité Sokimo à se retrouver entre eux et à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Mais il y a aussi des facteurs externes à Sokimo. Nous avons fait la revue de tous les contrats de partenariat que Sokimo a. Comment se fait-il qu'aucun de ces partenariats aujourd'hui n'arrive à remplir ses obligations contractuelles? Tous ces partenariats ont pratiquement fait faillite, à l'exception de Kibali bien sûr, où Sokimo se retrouve. Et donc, c'est un grand manque à gagner pour Sokimo, qu'il faut regarder et trouver une façon de pallier à cela. Nous n'avons pas le droit, nous, de gérer les fonds de Sokimo. Que ceux qui gèrent les fonds de Sokimo puissent expliquer pourquoi cette situation-là.
Et puis la Sokimo réplique en indiquant que ce montant est la contrepartie de 800 tonnes de réserves d'or que Kibali a acquis dans l'une des concessions minières auprès du gouvernement congolais. Les deux entreprises sont aujourd'hui partagées sur le paiement des royalties que la congolaise Sokimo réclame à Kibali Goldman. Jean-Paul Basila.
C'est sur Radio Okapi que l'ADG de Kibali, Louis Watum, a fait sa révélation lundi dernier. La Sokimo trouve cela comme une observation observation des mauvaises gestions. Elle estime qu'Ikibali doit aussi déclarer qu'elle a gagné en retour une réserve d'or estimée à plus de 800 tonnes. Elle accuse aussi Ikibali de n'avoir pas respecté totalement ses engagements vis-à-vis de la RDC malgré les succès des prospections. Laurie Kouamara, chargée des communications à la direction générale de la Sokimo.
Il n'y a aucun dollar que Ikibali donne à Sokimo à titre gratuit ou à titre généreux. Il n'y en a pas. Ils ont donné à Sokimo 155 millions et qu'en retour, Ikibali a gagné 800 tonnes d'or. Ikibali a gagné au stade des kilomètres carrés de périmètre minier, de concession minière. Ikibali Gold devait donner à Sokimo un gisement minier qui soit économiquement exploitable, une usine capable de traiter les minerais issus de ces gisements qu'on devrait fermer, mais dans la traitant dans les très courts termes, Ikibali devait aussi mettre à la disposition de Sokimo une usine pour le retraitement de rejets miniers.
Depuis septembre 2013, la Sokimo dit attendre sans succès d'Ikibali entre 1 500 000 et 1 800 000 dollars américains par mois comme frais des royalties. La délégation syndicale ainsi que les comités de gestion de la Sokimo n'excluent pas les pires si Ikibali ne change pas d'avis. Ounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Alexandre Choué, vous avez suivi ces conflits entre Ikibali Gold et Sokimo. Il y a un problème. Contrat signé et non respecté selon Sokimo, alors que Ikibali déclare avoir versé à Sokimo 155 millions de dollars et a réalisé sa part des contrats.
C'est un contrat qui lie les deux parties. Sokimo a ses obligations et Ikibali a aussi ses obligations. S'il a été établi clairement que Ikibali devrait exploiter tel carré minier en contrepartie de tel montant, et que après exploitation, Ikibali devrait céder aussi à Sokimo telle usine, et bien je pense que l'on devrait faire recours à la justice pour que l'on puisse départager les deux parties. C'est pour moi le seul moyen pour clarifier la situation. Que l'un dise qu'il a donné autant, c'est une chose, que l'autre réclame, c'est aussi une autre chose. Mais puisque c'est un contrat qui le lie et que c'est une matière de droit, et que les deux parties n'arrivent pas à trouver un compromis, il faudrait justement se remettre à la justice pour que la lumière soit faite et que l'on puisse rétablir chacun dans ses prises de position. Mais cette situation doit également nous amener à une plus grande réflexion en RDC. Nous avons certes un potentiel riche qui devrait normalement servir de ressort au développement économique de ce pays. Mais comment est-ce qu'alors nous arrivons à négocier nos partenariats? Il faut dès le départ prendre le temps d'examiner en profondeur ce que nous avons et ce que nous cédons en tenant compte du contexte économique national et du contexte économique international. Une fois que ces éléments sont bien compris, on met en œuvre tout ce qu'il faut mettre pour que l'on puisse préparer des contrats bien réfléchis et qui, au finish, devraient donner à la RDC la possibilité de tirer meilleure parti de ces grandes ressources. Et une fois qu'on s'engage dans le processus, on doit nous-mêmes suivre l'exécution au jour le jour ou pas à pas pour s'assurer que la RDC ne sera pas perdante. Parce que c'est aux Congolais qu'il revient de gagner et non pas aux étrangers de gagner sur le dos des Congolais. Donc telle est ma première lecture, il faudrait donc que l'on puisse se remettre à la justice parce que nous avons suivi la déclaration de Ikibali et la déclaration de Sokimo. Il y a donc disparité de point de vue, il faudrait donc les mettre ensemble et donner au système judiciaire l'occasion de trancher en tenant compte du contrat qui lie les deux parties.
Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, d'abord dans un premier temps, que les deux parties se retrouvent ensemble? Et si, au bout du compte, ils ne s'entendent pas, à ce moment-là, peut-être qu'ils pouvaient recourir à la justice. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, se retrouver pour faire quoi, puisque nous avons suivi les deux déclarations? Ils auraient dû dire que non, oui, le contrat stipule ça, j'ai fait ça, et c'est ce que Ikibali a dit. De l'autre côté, Sokimo dit que le contrat dit ça, et ils n'ont pas respecté les engagements pris. Alors, puisque les deux parties, en se référant au même contrat, n'arrivent pas à intérêt d'entente, mais laissons la justice trancher parce que le document est clair. Les signatures apposées par les représentants des deux parties sont là. La justice prend le document et on va interpréter les articles du contrat. Et après, on verra à quel niveau le bas blesse. Et si c'est Sokimo qui a raison, ben, la justice devrait être rendue en faveur de Sokimo. Et ce n'est pas le cas, on verra. Parce qu'il faut avoir la culture de respecter ou de faire respecter les contrats dans le domaine économique. C'est un élément très important pour le climat des affaires dans un pays.
Vous êtes un économiste des conflits de ce genre, parce que vous savez que Kilomoto et Ikibali, tous, ils sont autour de l'or. Ça, quelle incidence sur l'économie? Parce que...
En fait, exploiter l'or en RDC, c'est faire de la production. Donc, c'est créer des richesses. Et l'entreprise qui a investi ici, Ikibali, n'a pas investi à cause des beaux yeux de la RDC, non. C'est parce que Ikibali est à quête d'un profit que Ikibali est venu investir en RDC. encore pour dire qu'au finish, il y aura un profit qui va rémunérer les efforts des capitaux de Kibali. Mais bien sûr, comme l'acquitté se réalise en RDC, c'est que le pays tire aussi parti dans la mesure où on crée des richesses sur le sol congolais. Mais cependant, si on veut réellement tirer parti l'exploitation de nos ressources naturelles, il faudrait envisager un élargissement de la chaîne de création des valeurs dans le pays, surtout dans le secteur minier. Il ne faudrait pas que l'on puisse être là que juste pour extraire les minerais et ensuite les vendre à l'état brut à l'étranger. Il faudrait que l'on ait une vraie politique industrielle dans le secteur pour que l'on puisse non seulement extraire, mais aussi transformer les matières dans le pays et donner à cette matière de la valeur pour qu'une fois que l'on pourra vendre à l'étranger, et bien que l'on puisse justement gagner plus. Et quand on fait cet élargissement de la chaîne de création de valeur, on crée plus d'emplois, d'emplois mieux rémunérés.
Je rappelle que c'est Alexandre Anchoué, c'est un économiste que nous avons invité pour commenter, analyser avec nous l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. Prenons cette autre actualité de la semaine, 280 millions de dollars américains investis pour la construction d'une nouvelle usine de ciment à Songololo dans le Bas-Congo. Cette information a été livrée à Radio Okapi par le gouverneur de la province orientale. Jean-Momanissa Saïdi, initiateur et administrateur de cette entreprise, prévoit d'employer plus de 2000 personnes. Il est dit au téléphone de Paul Matendo.
La date prévue pour que l'usine puisse fonctionner et sortir les premiers sacs de ciment est au mois d'avril 2016. C'est un investissement qui atteint les 280 millions de dollars dans lequel se retrouve donc l'entreprise PPC et aussi des partenaires comme LASFI, la PTA Bank, la banque du Comesa.
Cette usine peut créer combien d'emplois?
Dans la phase de construction, on montera certainement à peu près à 2000-2500 personnes, étrangers tout comme congolais, mais nous allons mettre un accent particulier, suivant la politique d'ailleurs sud-africaine, de privilégier les emplois locaux et la main-d'œuvre locale, qui a commencé d'ailleurs à être formée déjà dès à présent.
Une nouvelle usine de cimenterie, vous savez que c'est la relance du problème de Sinat qui n'existe pas, Paul.
Tout à fait, Sinat est complètement par terre, mais pourquoi on ne donnerait pas beaucoup plus d'importance à Sinat que recourir au privé? Alexandre.
Je suis de ceux qui pensent que l'on devrait libéraliser certains segments de l'économie. Laissons aux privés qui peuvent investir, la possibilité d'investir dans le secteur. Et s'ils arrivent à créer des emplois, comme vient de le dire M. Bamanissa, ben ça va profiter à la collectivité. Pourquoi laisser à Sinat le monopole sur le marché, alors que Sinat, au fil des années, a fait preuve de son incapacité à répondre aux besoins de l'économie en termes de ciment? Parce que le pays est en phase de reconstruction et donc la demande de ciment est croissante. Il faudrait donc avoir suffisamment de ciment pour permettre aux constructeurs ou à l'État qui est en train de reconstruire les infrastructures de base de faire ce que bon lui semble. Mais lorsque l'offre de ciment sur le marché pose problème, cette rareté ralentit plusieurs chantiers. Et donc c'est un élément négatif. Je suis de ceux qui pensent que l'on devrait laisser les privés investir. Du reste, notre pays a un grand potentiel de production de ciment. Il y a plusieurs réserves de calcaire ici et là.
Tout à fait, mais ceci ne signifie pas que Sinat doit être enterré complètement. Ça me donne l'idée, même dans le secteur aérien, c'est la même chose qui se passe.
Non, mais pour relever Sinat, ça demande quoi? Que l'on ait des moyens. Il faudrait qu'il y ait aussi une certaine viabilité pour que l'on puisse relancer l'entreprise. Et tout celui qui voudrait apporter des capitaux ou qui pourrait apporter des capitaux devrait faire cette analyse-là. Est-ce que réellement Sinat est encore viable? Est-ce que Sinat pourra lever les fonds nécessaires pour se remettre en place? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, je suis de ceux qui estiment que, autrefois, le modèle de développement de la RDC, c'était un modèle qui était trop calqué sur l'autorité de l'État. L'État était trop puissant ou trop présent. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait moins d'État et mieux d'État. Donc l'État peut se retirer facilement de ce secteur et laisser au privé le soin d'œuvrer pourvu que l'on puisse avoir une quantité suffisante de ciment et à bon prix pour permettre aux gens qui sont en train de construire ou qui veulent construire de construire dans les très bonnes conditions.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre information de la semaine, en bref, 79 millions de dollars américains, c'est le montant alloué par l'IDA pour financer le projet de stabilisation de la RDC. C'est le conseil d'administration de la Banque mondiale qui a approuvé ce nouveau financement en faveur de la RDC. Cet appui est tout particulièrement destiné aux communautés pauvres et vulnérables vivant dans la partie est, notamment le nord, sud Kivu et la province orientale. Il vise également à améliorer les moyens de subsistance, reconstruire les infrastructures dans cette région exposée au conflit.
Pendant ce temps, en Bujimayi au Kasaï oriental, les vendeurs de marchés urbains réclament à l'hôtel des villes une contrepartie des taxes qu'ils versent périodiquement. Dans un mémorandum remis à l'autorité urbaine, ces vendeurs demandent que leur marché soit régulièrement vidé des déchets solides et liquides. C'était à l'occasion d'un dialogue social organisé par l'ONG CFID dans le cadre du projet Bonne Gouvernance dans les services sociaux.
En province orientale, un groupe de députés provinciaux en mission parlementaire à Ituri dénonce l'intensification de la fraude à la frontière avec l'Ouganda, précisément dans les territoires d'Arou et de Mahagui. Il parle notamment de l'entrée de marchandises par plusieurs pistes incontrôlées à l'aide des vélos, motos et autres moyens de transport dérisoires. Ce député estime que cette situation s'expliquerait par l'application de nouvelles dispositions douanières que les importateurs congolais jugent assez.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine nous amène au Katanga où il y a une baisse sensible du prix de cossette de manioc à Dilolo. C'est environ 600 km de Lubumbashi. Un sac de 100 kg de cossette de manioc est passé de $50 américains à 20 voire $18. Les opérateurs économiques angolais qui achetaient régulièrement cette marchandise en RDC préfèrent cette fois les cossettes de manioc en provenance de la Zambie pour raison de qualité d'après les sources sur place. Manen Waila, reportage.
La vente des cossettes de manioc constitue la principale activité commerciale du territoire de Dilolo et c'est vers l'Angola, pays voisin, que généralement ce produit est exporté. Il y a 4 mois, les commerçants angolais, qui généralement importent cette denrée en RDC, ne s'intéressent plus au marché local de Dilolo. Pourtant, le mois de mars, c'est la période que le marché des cossettes de manioc est important dans cette partie du Katanga. Aujourd'hui, le commerce de ces produits acheté à Dilolo. Les importateurs angolais ne viennent plus. Un sac de 100 kg de cossettes de manioc est passé de $50 américains à $20, voire 18, sur le marché local. Pourtant, généralement, au mois de mars dans les années antérieures, le prix d'achat d'un sac de 100 kg de manioc pouvait même atteindre $75 américains. Cette situation inquiète les commerçants, l'un d'eux.
Notre manioc est attaqué par les insectes et puis ça prend une couleur là, ce qui vient des Zambie est préférable parce que ça va durer beaucoup dans les sacs.
L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage du territoire de Dilolo explique qu'une rencontre entre l'inspecteur, les chefs des terres et les agronomes locaux est prévue dans les tout prochains jours pour se pencher sur cette situation. Lubumbashi, Madjeno, il a Radio Kapi.
Voilà, M. Alexandre, votre commentaire.
Oui, un consommateur paye le prix pour avoir la marchandise, mais il tient aussi compte de la qualité.
Oui.
Lorsque la qualité baisse, c'est tout à fait normal que la demande puisse aussi baisser. Donc je trouve que c'est une situation tout à fait normale. Il faut donc que l'on puisse, nous, au niveau interne, veiller à ce que le commerce se développe en tenant compte aussi de la qualité des produits à offrir. C'est à ce niveau-là que le bas blesse. Donc il faudrait avoir une véritable vision en matière de maintien ou de préservation de la qualité des produits. C'est à ce prix que l'on pourrait rester compétitif. Donc, il n'y a pas à s'alarmer, mais il faudrait chercher à voir quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour préserver la qualité du produit. Il y a des insectes, donc il faudrait que le ministère en charge de l'agriculture puisse voir comment attaquer ce problème rapidement.
Voilà, nous allons nous quitter là dans Panorama économique pour ce samedi. Merci à Alexandre Chouet. Il est enseignant d'économie à l'Université protestante du Congo. Merci, M. Alexandre.
Okay.
Ok. Paul, nous allons quitter les auditeurs pour ce samedi. Le rendez-vous, c'est le week-end prochain.
Tout à fait, mais entre-temps, c'est le premier rendez-vous et puis le lundi à 18h15.
La mise en onde était tenue par Dieudonné Nyangasa. Cette émission a été coordonnée par Julien Amouni. Merci de nous avoir suivis.